Bonjour Jean-François Froger.
Bonjour Père Éric.
Nous sommes heureux de vous retrouver en ce début d'année scolaire pour étudier. Donc nous avons vu l'année passée une série d'émissions, une dizaine d'émissions sur l'anthropologie du prophétisme. Et donc nous allons démarrer en ce début d'année une nouvelle série d'émissions que nous consacrerons à l'étude du premier récit de la création dans la Genèse. Alors je ne vous présente plus, simplement vous êtes anthropologue, plus spécialement spécialisé dans l'anthropologie biblique. Vous avez écrit un certain nombre d'ouvrages. Je rappelle aussi, peut-être en début d'émission, qu'il est possible de réentendre, hein, puisque c'est il y a plusieurs années déjà que vous animez ces émissions sur l'anthropologie biblique. Donc il est possible de se procurer ces émissions auprès de la radio RCF. Alors donc, nous entrons dans ce récit fondateur qui est celui de la Genèse avec une première question. Donc, quel est l'intérêt d'étudier ce texte aujourd'hui, ce texte ancien? La parole prophétique nous disait que finalement toute la Bible est prophétique, c'est une parole inspirée, c'est le cas de ce texte que nous allons étudier. Alors quel est l'intérêt de cette étude et en quoi ce texte finalement est-il fondateur encore aujourd'hui pour notre humanité et pour entrer dans cette dimension de la nature humaine qui nous constitue et qui s'éclaire, se comprend à travers la parole de Dieu.
Oui, l'intérêt de la Genèse, c'est d'abord que tout le monde croit connaître ce texte. Ça fait partie de notre culture générale et disons de la culture fondamentale en Europe au moins, fait dans les pays chrétiens. Donc la Genèse raconte les origines de l'humanité. Du moins, c'est ce qu'on croit. Et il y a la grande dispute qu'on va essayer d'éclairer, c'est de dire, oui, mais des récits sur l'origine, il y en a dans différentes civilisations, et ce sont des mythes, entendus comme des récits que l'imaginaire humain a produits pour s'expliquer des choses qu'il ne comprenait pas. Et donc, tout le monde a en tête que dans la Genèse, la création du monde est racontée en 6 jours, et évidemment, les siècles rationalistes ont ri d'une telle naïveté, disons, chronologique sur le récit du monde. Eh bien, nous allons sortir de ce point de vue pour entrer dans un autre, à savoir que c'est un texte fondateur, et de voir pourquoi il est si important, et pour cela, il nous faut l'étudier très précisément. Mais d'abord, entrer dans ce que dit l'Église, puisque c'est par elle que nous recevons ce texte en dehors de la tradition juive, qui transporte, c'est le premier texte de ce qu'on appelle le Pentateuque, donc la Genèse, c'est un livre qui est à la fois historique et non historique, on va voir. Et donc le Pentateuque, comme chacun sait, c'est ce qu'on appelle en hébreu la Torah. La Torah, composée de 5 livres, qui sont précisément la Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres et le Deutéronome. Donc j'emploie les mots connus, évidemment, ce sont pas les mots originaux. Par exemple, la Genèse, comme on va le voir, s'appelle Bereshit. Et on verra l'intérêt de bien souligner le sens de ces mots. Genèse, tout le monde l'entend, ça vient du grec, Genesis. Parce que Bereshit, ça veut dire au commencement, en première approximation. Donc il y a un problème de traduction. Donc immédiatement, ça nous met devant une question, comment étudier ces textes, sinon dans une tradition et dans une traduction. La tradition, ça va être celle de l'Église, et j'aimerais que nous puissions y rentrer à partir de textes qui ont été déterminants dans la vie de l'Église. Et le premier texte que j'ai à vous proposer, c'est d'écouter ce que dit, ce que disait, mais ce que dit encore, parce que ça n'est pas daté, le Concile de Trente. Vous savez que tous les conciles s'accumulent, mais ne s'effacent pas l'un et l'autre. Et il y a un décret dans le Concile de Trente, qui est dans les années 1540, donc c'est un peu vieux pour nous, qui parle de la façon de recevoir les textes dans l'Église. Et dans ce décret sur la réception des livres saints, je lis le même Saint Concile, donc Concile de Trente, reçoit et vénère avec le même sentiment de piété et le même respect tous les livres tant de l'Ancien Testament que du Nouveau Testament, puisque Dieu est l'auteur unique de l'un et de l'autre, ainsi que des traditions elles-mêmes concernant aussi bien la foi que les mœurs, comme ou bien venant de la bouche du Christ ou dictées de l'Esprit Saint et conservées dans l'Église catholique par une succession continue. Et alors dans ce texte, il y a un point très important, c'est que on dit que les livres de l'Ancien Testament donc sont reçus à égalité avec ceux du Nouveau Testament. Et qu'ensuite, donc ceux du Nouveau Testament sont rattachés à, évidemment à la parole du Christ, mais ceux de l'Ancien sont dits être dictés par l'Esprit Saint. Voilà une chose qui est capitale pour les gens qui ont la foi, et quelque chose qui est à comprendre pour ceux qui ne l'ont pas. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'un texte inspiré ? Alors, on peut lire la Genèse comme un texte de la littérature mondiale, ça vaut déjà la peine, mais on va faire contresens si jamais c'est un texte inspiré. Donc il nous faut faire une petite introduction avant le texte lui-même, de qu'est-ce que c'est qu'un texte inspiré. Et comme vous le rappeliez, on a déjà étudié pendant 10 émissions ce que c'est qu'une parole prophétique. Alors nous renvoyons un peu les auditeurs à ces émissions antérieures. Mais nous allons quand même dire quelques mots sur ce sujet.
Alors je vous propose peut-être, pour introduire cette nouvelle série d'émissions, d'écouter ce premier récit de la création que nous trouvons donc dans la Bible, ce premier livre de la Bible, ce premier livre du Pentateuque. Donc nous prendrons la traduction de la Bible de Jérusalem.
Oui, qui est une traduction moyenne, mais que tout le monde s'accorde à lire.
Et que vous nous ferez quelques corrections au fil de nos émissions pour réajuster le texte.
Je ferai beaucoup de corrections.
En traduisant le texte hébreu.
Oui.
Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or la terre était vide et vague. Les ténèbres couvraient l'abîme et un souffle de Dieu agitait la surface des eaux. Dieu dit, que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu sépara la lumière et les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Il y eut un soir et il y eut un matin, premier jour. Dieu dit, qu'il y ait un firmament au milieu des eaux et qu'il sépare les eaux d'avec les eaux, et il en fut ainsi. Dieu fit le firmament qui sépare les eaux qui sont sous le firmament d'avec les eaux qui sont au-dessus du firmament. Et Dieu appela le firmament ciel. Il y eut un soir et il y eut un matin, deuxième jour. Dieu dit, que les eaux qui sont sous le ciel s'amassent en un seul endroit et qu'apparaisse le continent. Et il en fut ainsi. Dieu appela le continent terre, et la masse des eaux mer. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit, que la terre verdisse de verdure, des herbes portant semences, et des arbres fruitiers donnant sur la terre, selon leur espèce, des fruits contenant leurs semences. Et il en fut ainsi. La terre produisit de la verdure, des herbes portant semences, selon leur espèce, des arbres donnant, selon leur espèce, des fruits contenant leurs semences. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, et il y eut un matin, troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour et la nuit, qu'ils servent de signes tant pour les fêtes que pour les jours et les années. Qu'il soit des luminaires au firmament du ciel pour éclairer la terre, et il en fut ainsi. Dieu fit les deux luminaires majeurs, le grand luminaire comme puissance du jour et le petit luminaire comme puissance de la nuit et les étoiles. Dieu les plaça au firmament du ciel pour éclairer la terre, pour commander au jour et à la nuit, pour séparer la lumière et les ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir et il y eut un matin, quatrième jour. Dieu dit que les eaux grouillent d'un grouillement d'êtres vivants et que des oiseaux volent au-dessus de la terre contre le firmament du ciel. Et il en fut ainsi. Dieu créa les grands monstres marins et tous les êtres vivants qui glissent. Les eaux les firent grouiller selon leur espèce et toute la junte ailée selon son espèce, et Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit et dit « Soyez féconds, multipliez, emplissez l'eau des mers et que les oiseaux multiplient sur la terre. » Il y eut un soir et il y eut un matin, cinquième jour. Dieu dit « Que la terre produise des êtres vivants selon leurs espèces, bestiaux, bestioles, bêtes sauvages selon leur espèce. » Et il en fut ainsi. Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce, les bestiaux selon leur espèce, et toutes les bestioles du sol selon leur espèce, et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, comme notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, toutes les bêtes sauvages, et toutes les bestioles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, homme et femme, il les créa. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, emplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et tous les animaux qui rampent sur la terre. Dieu dit, je vous donne toutes les herbes portant semences, qui sont sur toute la surface de la terre, et tous les arbres qui ont des fruits portant semences. Ce sera votre nourriture. À toutes les bêtes sauvages, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui rampe sur la terre et qui est animé de vie, je donne pour nourriture toute la verdure des plantes, et il en fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Cela était très bon. Il y eut un soir et il y eut un matin, sixième jour. Ainsi furent achevés le ciel et la terre, avec toute leur armée. Au septième jour, Dieu avait terminé tout l'ouvrage qu'il avait fait, et le septième jour, il chôma après tout l'ouvrage qu'il avait fait. Dieu bénit le septième jour et le sanctifia, car il avait chômé après tout son ouvrage de création.
Merci. Donc nous avons là le récit que nous entendons, par exemple, dans la liturgie de Pâques, où à chaque Pâques, il y a toute l'étape de la création et du salut qui se trouve à travers toute l'Écriture, en rappelant évidemment la traversée de la mer Rouge, etc. Donc ce texte va revenir chaque année. Et il est plus ou moins connu, vous avez vu, en le lisant, qu'il y a une certaine complexité du récit, et nous avons comme programme dans les 10 émissions d'éclairer un peu ce que ça signifie. Pourquoi ? Parce que la lecture littérale, d'abord, devrait s'appuyer sur une traduction mieux faite, et on verra pourquoi en donnant les exemples, car évidemment la traduction est entendu dans le français actuel. Donc ça demande beaucoup d'explications, déjà au sens littéral. Et ensuite, les textes inspirés demandent d'être interprétés. L'interprétation étant partie prenante des textes inspirés. Ils ne sont pas inspirés en soi. Ils sont inspirés quand on les a lus et qu'on a reçu quelque chose. Et je crois qu'il faut éclairer ce problème de l'inspiration, puisque souvent, on se contente d'une lecture littérale où le texte n'étant pas vraiment intelligible, parce que il n'y a pas grand-chose à comprendre, sauf des images un peu disparates, alors on le rejette en fait, on ne le reçoit pas. Alors pour recevoir un tel texte, il y a un travail de l'intelligence nécessaire. Et ce que je dis en ce moment, l'Église l'a toujours dit. Et j'aimerais que nous entrions un peu avant le travail technique dans ces textes, si ça vous paraît intéressant.
Oui, je crois que c'est bien d'entrer justement dans l'intelligence du texte en écoutant ce que la tradition a pu nous transmettre sur ce thème. Alors je vous propose que nous prenions une première pause musicale. Vous nous avez choisi un oratorio en trois actes de George Friedrich Händel. Voilà, nous nous retrouvons dans quelques instants. Jean-François, nous reprenons. Donc, je n'ai pas précisé quel était le titre de cet oratorio. Donc, il s'agit de Balthazar. Donc, vous nous avez dit que ce texte de la Bible était un texte inspiré, à la fois de la bouche du Christ pour le Nouveau Testament, mais aussi par l'Esprit Saint dans l'Ancien Testament. Alors, qu'est-ce que la tradition nous enseigne sur la réception des Écritures et qui nous aidera à comprendre combien la Genèse, la Torah, est normative, puisqu'elle suscite notre intelligence, elle nous demande d'en comprendre les figures. Nous avons entendu le texte que nous expliciterons au fil de nos émissions. Alors, que nous dit la traduction sur la réception de ce texte ?
Beaucoup, beaucoup de choses. Alors, on va faire un tri. On va choisir d'abord à partir du Concile de Trente, parce que c'était un point très important dans l'histoire, car on a fait la liste des textes inspirés. Et donc, dans le Concile de Trente, on lit que dans l'Ancien Testament, qu'est-ce qu'il y a ? Les cinq livres de Moïse, etc. C'est-à-dire la Genèse, le Deutéronome, comme on a dit tout à l'heure. Donc, ça signifie que la Genèse est attribuée à Moïse. Alors, tous ceux qui ont un petit peu de culture contemporaine savent que c'est une chose qui a été déniée par beaucoup d'exégètes contemporains pour favoriser l'idée que la Genèse serait un texte sapiential écrit sous le règne de Salomon. Alors, ça, c'est une hypothèse de scientifique, mais qui n'a pas de fondement dans la tradition. Et si on va voir, par exemple, il y a une lettre d'Innocent Ier du 20 février 405, parce que nous avons tous les documents, et qui dit, 405, vous voyez, c'est le début du 5e siècle, « Les livres qui ont été reçus dans le canon, donc qui existent déjà bien sûr, sont indiqués dans un appendice et qui dit « Il y a cinq livres de Moïse ». C'est-à-dire Genèse. Donc reprend 30 en 1546, 1000 ans après. Et si on va un peu plus loin, par exemple, dans Des Révélations de Vatican I, donc 24 avril 1870, et nous franchissons les siècles, si quelqu'un ne reçoit pas les livres de la Sainte Écriture comme sacrés et canoniques, dans leur intégrité et avec toutes les parties, tels qu'ils sont énumérés par le Saint Concile de Trente, donc Vatican I ratifie le Concile de Trente, vous voyez, et s'il nie qu'il soit divinement inspiré, qu'il soit anathème. Et donc ça c'est pour à l'intérieur de l'Église, évidemment. Un non-croyant, ça ne lui dit rien. Mais ça veut dire qu'un concile dit que si nous n'accueillons pas la Genèse, par exemple, comme divinement inspirée, eh bien, on est en dehors des clous, on est quelque part en dehors de la foi. Parce que dire simplement c'est un récit mythique, c'est totalement insuffisant. Et d'ailleurs, nous allons le démontrer. Mais continuons un peu dans l'histoire. Le même Concile Vatican I, dans Dei Filius, dit qu'il faut croire au miracle. Pourquoi ? Parce que ça intéresse l'interprétation de l'Écriture. Et donc, il faut croire à la possibilité du miracle, parce que si les textes que nous avons sont divinement inspirés, c'est un miracle. Comme toute parole réellement inspirée, c'est un acte divin, mais qui s'inscrit à l'intérieur d'un acte humain. Alors, c'est une chose. Telle est la foi ancienne et constante de l'Église, définie par une déclaration solennelle au Concile de Florence et de Trente, puis confirmée et expliquée plus clairement encore au Concile de Vatican, qui a déclaré sans aucune réserve, les livres de l'Ancien et du Nouveau Testament ont Dieu pour auteur. Ça, c'est Léon XIII. On avance dans les siècles, 1893. C'est pourquoi il n'importe nullement que l'Esprit Saint ait utilisé des hommes comme instrument pour écrire, comme si une erreur quelconque aurait pu échapper, non pas certes à l'auteur principal, mais aux écrivains inspirés. En effet, sa vertu surnaturelle, par sa vertu surnaturelle, il les a lui-même animés, émus à écrire et assistés lorsqu'ils écrivaient, en sorte qu'ils concevaient justement qu'ils voulaient écrire fidèlement et qu'ils exprimaient exactement avec une vérité infaillible, tout ce qu'il leur ordonnait d'écrire, et seulement ce qu'il leur ordonnait d'écrire. Autrement, il ne serait pas lui-même l'auteur des Saintes Écritures dans leur entier. Ça, c'est dans une encyclique, Providentissimus Deus, de Léon XIII. Et ça signifie une chose très grande, c'est que la fidélité des écrivains donc, ne dépend pas de leur humeur, ni même du contexte historique. Ce qui va dépendre du contexte historique, c'est la façon dont ils vont s'exprimer. C'est leur langue. Bien sûr que Moïse va s'exprimer en hébreu, ou quelque chose d'approchant, parce qu'il sort d'Égypte. Et on verra d'ailleurs que dans la Genèse, dans les chapitres qui suivent, il y a beaucoup d'égyptianisme, et beaucoup plus que d'araméisme, qui viennent d'une réécriture du temps et du rétablissement d'Israël. Puisque là, tout a été réécrit. Donc là, je n'entre pas dans les détails techniques, mais... Donc l'inhérence des écritures est une chose capitale, qui est celle des écrivains inspirés, et une chose qu'il convient d'accepter si on veut entrer dans le sens de ces textes. Mais alors ça pose un gros problème, parce que le monde créé en 6 jours, alors c'est une vérité infaillible, si on comprend de quoi il s'agit. Et donc ça va nous poser un problème, c'est mais qu'est-ce que c'est que ces jours? Qu'est-ce que ça signifie vraiment? Où est la vérité là-dedans? Parce qu'il y a une façon de lire littéralement, qui est évidemment erronée, pas simplement aux yeux de la science, mais aux yeux de la raison, tout simplement. Parce que la science varie avec les siècles. Donc ce dont on riait sous Galilée, on n'en rit plus sous Newton, et on rit encore moins avec Einstein. Mais ce sont des étapes de la connaissance humaine qui ne mettent pas du tout en cause la vérité révélée dans les textes. Autrement dit, il ne faut pas s'amuser à faire de concordisme, comme ça a été fait dans les siècles précédents. En disant, oui, mais alors voyez, la création, le Big Bang, c'est... Non. Même l'abbé Lemaître, qui est l'origine de cette théorie du Big Bang avec Friedman, disait, non, attention, il ne faut pas confondre ça avec la création du monde. Ce que d'aucuns font aujourd'hui, évidemment. Non, le Big Bang n'a strictement rien à voir avec le récit inspiré de la création. Ça a à voir avec une théorie scientifique, d'ailleurs, qu'on peut mettre beaucoup en doute, d'ailleurs qui est remise en doute actuellement par les physiciens. Parce que c'est beaucoup trop simple, et puis c'est une façon d'aménager certaines équations. Mais n'allons pas faire de la physique, justement, allons voir, et le travail que nous allons faire, c'est d'entrer dans l'intelligence du texte. Et ça, c'est un très gros travail.
Donc nous pourrions dire que nous allons quitter donc l'espace littéral du texte, chronologique, pour entrer dans une métaphysique du texte.
Exactement.
Donc une lumière intelligible qui semble vouloir être transmise par Dieu dans cet acte divin de création.
Exactement. Et alors pour ça, il faut être sûr que nous avons le droit d'interpréter. Et non seulement le droit, mais le devoir. Et ce devoir d'interpréter, il a été dit dans une encyclique de Pie XII. Par exemple, déjà dans l'encyclique Spiritus Paraclitus de 1920 de Benoît XV, et ensuite une encyclique de Pie XII, Divino Afflante Spiritu, 30 septembre 1943. On s'approche de l'actualité. Et voilà ce que disait Pie XII. Que les exégètes, donc les gens qui travaillent au sens des Écritures, dans l'accomplissement de leur travail, aient toujours devant les yeux qu'il leur faut avant tout s'appliquer à discerner et à préciser le sens des mots bibliques qu'on appelle le sens littéral. Parce que ce n'est pas évident. La traduction semble être claire, mais elle ne l'est pas. Ils doivent mettre le plus grand soin à découvrir ce sens littéral des mots au moyen de la connaissance des langues, évidemment, en s'aidant du contexte et de la comparaison avec les passages analogues. Alors ça a été fait parce qu'effectivement, on peut lire littéralement le texte comme un mythe d'origine. Donc on peut aller voir les mythes assyro-babyloniens qui ressemblent. Mais ça ressemble, ça n'est pas du tout identique et ça n'a pas du tout la même source. Parce que l'imaginaire humain, comme on l'a vu dans l'esprit prophétique, peut très bien remplacer l'inspiration divine. À défaut d'inspiration, nous imaginons. Et donc, il va falloir faire la différence entre l'imaginaire et l'inspiration. Et la différence, je le dis tout de suite, c'est la rationalité du texte. Et nous allons voir que, par exemple, décrire la création du monde avec l'idée de jour, ça relève de la rationalité et on en fera la démonstration. Je reprends Pie XII. Toute opération qu'on a coutume de faire aussi dans l'interprétation des textes profanes pour faire ressortir plus clairement la pensée de l'auteur. C'est pourquoi l'exégète doit également exposer le sens spirituel, donc qui relève de la raison, pourvu qu'il soit établi de façon certaine et qu'il a été voulu par Dieu. Alors, il ne faut pas se contenter d'exposer ce qui regarde l'histoire, l'archéologie, la philologie et autres sciences semblables. Donc bien sûr que nous avons besoin d'un contexte, par exemple Moïse. Alors évidemment, si on n'attribue pas les textes à Moïse, le contexte est différent. Le contexte de Moïse, c'est la sortie d'Égypte. Le contexte que les exégètes donnent, c'est la cour royale de Salomon. C'est plus du tout le même contexte. Donc ça va orienter notre interprétation. Il faut exposer surtout quelle est la doctrine théologique de chacun des livres. Autrement dit, les textes vont nous enseigner quelque chose sur Dieu. Alors, les textes de création vont effectivement nous enseigner quelque chose sur l'idée que ces textes nous donnent sur l'acte divin. Alors, qu'est-ce que c'est que la création? Alors, on l'a déjà entendu, mais on va y revenir très profondément. Vous voyez, on nous dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, etc. Et Dieu dit que la lumière soit. Ah, tout commence par une parole. Alors, nous allons étudier ça en premier.
Alors, avant de poursuivre notre étude, écoutons un second extrait de l'oratorio. Jean-François, nous continuons donc à explorer la tradition conciliaire autour de notre réception des textes inspirés pour, comme vous l'avez bien dit, quitter cet imaginaire humain qui trop souvent remplace l'inspiration divine. Voilà, cette différence qui se fait par la rationalité du texte. Alors, avez-vous d'autres extraits à nous transmettre, mais peut-être de textes plus récents, justement, sur cet appui que la tradition fait à l'accueil inspiré du texte révélé?
Oui, bien sûr. Nous avons par exemple la constitution dogmatique Dei Verbum de Vatican II, donc 18 novembre 1965. Nous rapprochons de l'actualité. Et j'ai ce passage tout à fait intéressant. Dieu, dans l'admirable condescendance de la sagesse éternelle, s'est mis à notre portée dans son langage. Alors ça, c'est important parce que on reconnaît que Dieu va parler, en quelque sorte, dans le langage humain. Donc on va essayer de comprendre ce que ça signifie aussi. Un peu plus loin. En effet, les paroles de Dieu, exprimées en langues humaines, sont devenues semblables au langage humain. De même que jadis, le Verbe du Père éternel, ayant assumé la chair humaine avec ses faiblesses, est devenu semblable aux hommes. Alors ça indique une chose très importante, c'est que nous devons traiter la langue divine qu'on va entendre dans la langue humaine de l'Ancien Testament comme le fait que le Verbe assume une chair humaine dans l'incarnation du Verbe. Et d'ailleurs, ça rappelle une chose que Origène disait déjà au début du christianisme, il disait que les Écritures sont en quelque sorte une pré-incarnation du Verbe. Donc, mais là, on est à Vatican II en 1965. Et donc la doctrine catholique pose comme nécessaire l'analogie du langage humain et des paroles de Dieu. C'est puisqu'il s'exprime dans cette langue. Alors, ça n'est pas une identité, ça n'est pas un langage profane, c'est un langage inspiré. Donc c'est comme un langage humain, il s'est exprimé dans des langues humaines. Mais c'est pas simplement humain. Et donc, il y a une analogie à poser entre ce qui est dit et ce que nous disons. Autrement dit, chaque phrase, par exemple, de la Genèse que nous avons lue au début de cette émission, va devoir être comprise par analogie. Et sinon, on ne comprend rien. Et alors, le gros problème, c'est de comprendre un petit peu, quand même, ce que c'est que le langage humain. Donc nous devons faire un effort de connaissance et de conscience sur notre propre langage pour pouvoir faire l'analogie. Alors je rappelle que l'analogie, c'est qu'il y a une ressemblance, il y a des points qui sont pareils, semblables, et d'autres très différents. Donc l'analogie suppose une ressemblance et une dissemblance. Sinon, il y aurait identité, et on traiterait le langage divin comme le langage humain.
Et pourriez-vous nous donner une définition de ce qu'est le langage humain ?
Oui. Alors, je m'appuie sur les travaux d'un grand linguiste qui s'appelle Noam Chomsky, qui n'a rien de chrétien d'ailleurs, mais qui dit des choses intelligentes sur le langage humain. Alors, il dit quatre choses capitales que nous allons peut-être développer. C'est que le langage humain est intentionnel. Alors, je vais y revenir. Il est syntaxique, il est énonciatif et il porte sur quelque chose. Il a un certain contenu. Et alors, parce que ça n'est pas que structural, comme ça a été la mode pendant le début du siècle précédent. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'un langage est intentionnel ? Mais ça veut dire qu'il a une intention, il vise quelque chose. Quand on dit quelque chose, on a nécessairement l'intention de faire comprendre à son interlocuteur une pensée ou une idée ou quelque chose. Ou même simplement sa souffrance. Quand on dit « j'ai mal », c'est un contenu pour soi, ça n'a pas de contenu pour l'autre, mais on veut lui signifier justement une souffrance et par analogie, s'il a jamais souffert, il va dire « tiens », parce qu'on comprend jamais exactement ce que l'autre dit. On le comprend toujours par analogie, déjà entre nous. Et tout ce qui a été écrit l'a été, dit saint Paul, pour notre instruction. Ah, tout ce qui a été écrit dans les Écritures saintes. Lui-même étant inspiré, nous dit que l'intentionnalité générale des Écritures saintes, donc de la Genèse, c'est pour notre instruction. Donc, nous instruire de quoi ? Pourquoi ? Pour que nous possédions l'espérance. C'est-à-dire de quoi traverser ce monde qui nous paraît si obscur et si insensé. C'est-à-dire que beaucoup de gens se posent, mais quel est le sens de la vie, quel est le sens du monde? Enfin, à quoi ça rime tous ces milliards d'étoiles, par exemple, hein, et tous ces milliards d'années, hein. Donc, nous sommes posés dans le monde, et ça, c'est d'une expérience que chacun a faite ou peut faire, en étant, dans le fond, dans la sidération, le tremblement, en disant, mais qu'est-ce que ça signifie tout ça? Donc, nous cherchons une intentionnalité du monde. Alors, d'aucuns vont dire, mais il n'y en a pas. Le monde n'a pas de sens, il est absurde. On peut faire, mais c'est un choix. Parce que qui décide que c'est absurde? Qui décide que ça a un sens? C'est nous. Alors, on peut faire ce choix. Alors, l'Écriture sainte, elle a une intentionnalité. Et l'intentionnalité, c'est justement une instruction de l'homme pour qu'il ait un langage, une parole qui lui donne du sens. Alors, après, notre choix, notre liberté, sera de dire, ah ben le sens qui est proposé, je l'adopte, ou le sens qui est proposé, je le rejette. Mais avant d'adopter ou de rejeter, il faudrait comprendre de quoi il s'agit. On ne peut pas dire oui ou non, ni l'un ni l'autre, si on n'a pas compris. Et sinon, on est simplement bête. Donc, le travail nous est absolument nécessaire pour entrer dans l'intentionnalité du texte qui est destiné à nous instruire. Alors, en quoi le texte que nous avons lu sur la création dans les 6 jours nous instruit? Et nous instruit de quoi? Et c'est le programme des 10 émissions. Ensuite, le langage, notre langage à nous, est syntaxique. Il a une syntaxe. C'est-à-dire qu'on doit regarder son organisation propre. Alors évidemment, il y a une organisation propre du langage de la Genèse, qui est l'hébreu de Moïse. Alors j'en dirai quelques mots, évidemment. Et donc, bien rectifier la traduction, qui en gros veut donner du sens, sans faire attention à l'organisation réelle des images. Et c'est ça que nous proposons. Bien regarder les images. Ensuite, le langage est énonciatif, c'est-à-dire qu'il donne une certaine information. Mais une information sur quoi? Et Dieu dit qu'il y ait de la lumière et il y a de la lumière. Est-ce que ça nous informe sur la présence des photons dans le monde? Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de bien autre chose. Donc il faut déterminer aussi dans quel domaine ça nous donne de l'information. Ensuite, l'examen de l'intentionnalité, de la syntaxe, de l'énonciation des termes et des images ne serait pas suffisant si on ne comprenait pas que il y a un contenu, ce que est le discours. Et ici, ce qu'est le discours, c'est justement ce que Dieu a dit. Et nous allons toucher du doigt ce que l'homme n'aurait pas dit par lui-même. Voilà. Et ça, on peut s'appuyer là-dessus chez Léon XIII, chez Benoît XV. Donc les Écritures, règle suprême de la foi, dans l'Église évidemment, puisqu'inspirées par Dieu et consignées par écrit une fois pour toutes, elles communiquent immuablement la parole de Dieu lui-même et font résonner dans les paroles des prophètes et des apôtres la voix de l'Esprit-Saint. Autrement dit, nous avons affaire à quelque chose qui s'inscrit dans l'histoire, parce que la langue, c'est la langue de Moïse. Donc nous avons un effort à faire au niveau culturel, puisqu'il faut recevoir une langue qui nous est étrangère, et surtout qui nous est étrangère par le temps. Mais en même temps, ce qui est dit est intemporel, parce que ça vient de Dieu. Donc c'est immuable au sens que notre intelligence va être illuminée par des principes, comme dit d'ailleurs Bereshit, on le verra, par des principes qui sont par eux-mêmes intemporels, non chronologiques. Nous allons atteindre à toutes ces choses qui peuvent paraître un peu complexes, mais qui sont très simples lorsqu'on prend avec patience les images une par une.
Jean-François, nous allons devoir conclure notre première émission, mais je crois que vous nous avez bien mis en appétit pour mieux entrer dans l'intelligence de ce texte et vraiment le recevoir, comme vous l'avez dit, ce texte, comme l'a dit saint Paul, comme une instruction pour nous aider à voir que ce monde, finalement, n'est pas absurde et qu'il traduit, qu'il nous engage sur un chemin et que ce chemin est de tous les temps.
Voilà.
Merci beaucoup, Jean-François. À très bientôt.
يسمحوا هالشمايل